Faisons une lecture dans le livre des Proverbes de Salomon et arrêtons-nous dans Proverbe 17 et regardons au verset 22. Livre des Proverbes, chapitre 17, verset 22. Puis, nous allons revenir dans le Nouveau Testament pour découvrir et lire la déclaration d'un homme de Dieu. Particulier dans le Nouveau Testament, je vous en dirai plus tout à l'heure. Regardez avec moi le Proverbe 17, verset 22. Livre des Proverbes, chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux est un bon remède. Et puis j'ai regardé un petit peu, que se passe-t-il quand je suis joyeux et que quelquefois je suis amené à éclater de rire ou à rigoler. Alors j'ai vu que quand je ris, quand vous riez, quand nous rions, ou lorsqu'on rit, il y a 400 muscles qui se mettent à travailler au niveau du visage. J'ai trouvé ça quand même extraordinaire. 400 muscles ont travaillé. Soit les zygomatiques, les pommettes, les muscles faciaux, le diaphragme, les muscles thoraciques, enfin, toute une série de muscles qui se mettent à travailler quand je suis joyeux et que je rigole. C'est bien. Je n'ai pas obligé de dire amen, hein, ce n'est pas la peine de dire amen. Ça, ce n'est pas spirituel, ça. Mais de l'autre côté, ou à l'inverse, quand on est fâché, ou lorsqu'on fait la tête, alors je vois qu'il y a des conséquences qui en découlent, qui sont insoupçonnées, mais réelles. Cela peut produire des troubles digestifs, des troubles inflammatoires, quelquefois des troubles gastriques, des brûlures d'estomac, le C est un C muet, c'est ça, hein? Voilà, excusez-moi, je me suis laissé un petit peu aller, mais je me suis rapidement repris. Et puis, lorsque nous sommes fâchés, que nous faisons la tête, je ne l'ai pas dit lorsqu'on fait la gueule, je ne le dis pas. Cela produit l'organisme, eh bien, à sécréter beaucoup plus d'adrénaline. Cela veut dire que, d'après ce que nous comprenons, pour faire le parallèle entre ce qui se passe quand je suis joyeux et que je ris, et à l'inverse, ce qui se passe quand je suis fâché, quand je fais la tête, quand je suis bougon, et puis l'autre. Donc, je comprends très bien avec ce que je viens de lire qu'un cœur joyeux est un bon remède. Alléluia. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Alors ce soir, qu'est-ce que je préfère? Qu'est-ce que je pourrais faire ce soir? Dites-moi. Mais servez l'Éternel avec. Vous savez, est-ce que vous connaissez l'apôtre Paul? Oui, vous le connaissez dans les Écritures. Dans une église qu'on appelle l'église de Philippe, l'apôtre a subi de sacrés outrages, tout en faisant l'œuvre de Dieu. Il va être arrêté avec ses collaborateurs, ils vont recevoir des coups. Mais malgré l'hostilité et l'opposition à Philippe, une femme qui s'appelait Lydie, de son état marchande de pourpre, va se convertir au Seigneur, et cela sera le tremplin, eh bien, d'une action de Dieu qui, après que l'apôtre ayant été mis en prison avec ses collaborateurs, Dieu va lui donner une vision qu'un Macédonien lui dise, dans cette vision, passe en Macédoine et secours-nous. Et puis, une fois que le Seigneur a permis que les choses soient mises en place, vous connaissez comme moi qu'à Philippe, après qu'il eut été Paul et Silas en prison, Dieu va permettre que ce geôlier expérimente la grâce de Dieu, se convertisse, et lorsqu'il a vu la puissance de Dieu se manifester pour libérer ses serviteurs, il a dit à Paul, « Eh bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Paul lui a dit, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Mais après, il leur a annoncé l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, non seulement au geôlier, et à tous ceux de sa maison. Gloire à Dieu. Et c'est ce même Paul qui, dans la lettre qu'il envoie à l'église de Philippe, leur dit dans le chapitre 4, Philippiens 4:4, c'est un 4:4 mais qui n'a pas besoin de roue ni de volant, c'est le Saint-Esprit qui le conduit et qui le véhicule dans ton cœur ce soir. Philippiens 4:4, c'est un 4:4 spirituel, divin. Lisez ce que me dit l'apôtre, que nous dit l'apôtre, alors qu'il est en prison. Alors qu'il est dans quatre murs, alors que son sort n'est pas du tout glorieux, mais s'il était dans les murs de la prison, eh bien, son esprit était libre en lui. Sa communion avec Jésus-Christ était verticale. Alléluia. Et rien ne pouvait l'empêcher d'écrire aux Philippiens qui, eux, étaient libres. Dehors, il leur dit, Philippiens 4:4, disait avec moi, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et puis, il continue, je le répète quoi? Réjouissez-vous, alléluia. Il est en prison. Et il écrit à ceux qui sont libres de se réjouir. Ce soir, tu n'es pas en prison. Mais au contraire, tu fais partie de ceux qui jouissent de la liberté glorieuse d'enfant de Dieu qui t'a été acquise par l'œuvre accomplie par Jésus, et dont ce soir, tu es bénéficiaire. Au Galate, il dira, Galate, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Alors demeurez donc ferme, et ne vous laissez pas à nouveau mettre sous le joug de la servitude. Un enfant de Dieu qui est libre, il use de la liberté, mais cette liberté le rend joyeux. Alors, si j'osais, je ferais un petit sondage pour demander où sont ceux qui sont joyeux ce soir. Si j'osais, mais je n'ose pas. Pourquoi je n'ose pas? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est au bénéfice de l'action du Saint-Esprit qui a cette capacité de remplir le cœur de joie. Mais, si nous voyons l'Écriture, ce soir, Dieu va nous donner à considérer cinq sources d'où doit, dans la logique biblique divine, découler la joie de l'enfant de Dieu que je suis. Voulez-vous voir la première source? Alors, regardez avec moi. Dans le psaume 32, au verset 1er, nous allons trouver la première source. Et Si le psalmiste des siècles avant nous l'a mentionné sous forme de confession, ce soir je ne suis pas le psalmiste, je ne suis pas David. Les siècles ont passé, mais le Saint-Esprit qui animait David, c'est le même qui m'anime ce soir. C'est le même qui t'anime ce soir. Le Dieu de David, il est ton Père Céleste ce soir. Gloire à Dieu. Regardez avec moi, frères et sœurs en Christ. Psaume 32, verset 1er. C'est comme un cantique. Il écrit, lisez, heureux, quoi? Celui à qui la transgression est remise. Alléluia. Heureux celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Ça veut dire Dieu ne met plus son péché à son compte. Pourquoi Dieu ne met plus son péché à son compte? Expliquez-moi. Parce que Dieu a mis ses péchés sur le compte de Jésus pour qu'il devienne le sauveur, le substitut. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui s'est livré à la mort pour que je puisse avoir la vie. Celui qui a payé la rançon du rachat de mon âme. Celui qui a tout enduré, qui a tout supporté, mais qui a tout accompli, afin que sur la base d'une œuvre de rédemption parfaitement accomplie, en vertu de la foi, eh bien, je reçoive le pardon de mes péchés et je sois au bénéfice de toutes les conséquences qui en découlent. Heureux, cela s'appelle la joie du pardon. Je me réjouis ce soir, ô Dieu, de ce que tu as pardonné mes péchés. Et le pardon de mes péchés que j'ai expérimenté me spécifie clairement, de manière merveilleuse, de manière totale, de manière complète, de manière définitive et de manière éternelle, que je suis justifié devant ta face. Gloire à Dieu! Mais il faut que je vous explique que ce pardon que j'ai reçu, je suis appelé à le considérer sous deux aspects. Le voulez-vous? Le premier aspect de son pardon, de ce pardon, nous pourrions le définir comme étant le pardon que nous qualifierions de pardon judiciaire. J'ai reçu de Dieu le pardon judiciaire. Pourquoi? S'il y a du judiciaire, c'est parce que quelqu'un a été jugé. Jésus a été jugé, Jésus a été condamné, donc j'ai reçu le pardon qui découle de l'œuvre de Jésus accomplie, qui satisfait le Père dans ses exigences, mais qui m'accorde aussi le fait d'être au bénéfice de cette œuvre grande et glorieuse. Pardon judiciaire. Jésus a été jugé, et moi qui devais être jugé, alors je suis gracié. Et le deuxième volet de ce pardon, frères et sœurs en Christ, qui va nous accompagner tout au long de notre marche chrétienne sur le chemin de la persévérance, s'il y a le pardon judiciaire qui prend effet quand j'ai cru pour le pardon de mes péchés à l'origine, quand l'évangile m'a été prêché, mais tout au long de la marche chrétienne, je suis au bénéfice de ce qu'on appellerait le pardon paternel. Quand Dieu me pardonne aujourd'hui, quand j'ai péché, ce n'est plus le pardon judiciaire, puisque ça a pris effet quand j'ai cru pour le salut. Mais maintenant, quand je transgresse ses commandements, quand ça m'arrive, je reçois de sa part, en vertu de la repentance que je manifeste, du regret, je reçois de sa part le pardon paternel. Ce qui me donne à considérer que dans l'œuvre de Jésus, Jésus, par son sacrifice,
d'où découle le pardon que j'ai reçu, m'a acquis devant Dieu une rédemption, nommez-la éternelle. Ce sont des choses que toi, enfant de Dieu, tu dois connaître, tu dois garder, tu dois posséder, mais que tu dois vivre. Donc quand tu vis ça, tu es, oui, tu es heureux. Tu es heureux, tes péchés sont pardonnés. Heureux celui à qui la transgression est remise. Donc vous comprenez pourquoi, frères et sœurs, quand Dieu nous dit « ne crains pas » ou quand quelquefois on se gratte la tête, on se fait des cheveux blancs, on a toutes sortes de pensées qui n'ont rien à voir avec la réalité de Dieu, Jésus a lui dit « que ton cœur soit dans la paix ». Alléluia. Frères et sœurs en Christ, je vous en supplie au nom de Jésus. Ne laissez pas votre vieille nature vous amener à un champ de spéculation sans fondement. Mais croyez ce que Dieu dit. Et imposez à votre vieille nature les saintes écritures. Et sera obligé de se soumettre. Excusez-moi, pasteur gentil, avant de pasteur gentil, je suis frère Claude Gentil. Hein. Ce sont des choses que Dieu m'a fait comprendre dès que j'étais bébé spirituel. Hein. Vous comprenez pourquoi pasteur gentil est heureux? Je suis heureux avec Jésus. Oh, je sais que tout le monde n'est pas au même niveau spirituel, ça ne fait rien. Mais je bénis Dieu, frère et sœur en Christ, pour la part de grâce qu'il m'a départi dans l'œuvre de Jésus à la croix. Jour après jour, je commence à prendre un petit peu d'âge. Plus je grandis avec mon Seigneur, plus je peux le bénir, le glorifier, non seulement de ce qu'un jour il s'est arrêté sur ma misère, mais que désormais il a pris mon sort et qu'il a lié mon sort à celui de son Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi je veux véritablement que par la vie de l'Esprit, de plus en plus, je sois attaché à ce sauveur merveilleux. Vous savez, quand Barnabas est allé à Antioche, envoyé par les apôtres, il avait appris que l'évangile était arrivé dans la contrée. Quand Barnabas est arrivé, la première chose qu'il a vue est qu'il eut vu la grâce de Dieu. Il s'en réjouit. Ça veut dire qu'il a été joyeux. Il s'en réjouit. Et après s'être réjoui, il les a exhortés à ceux d'Antioche à rester de cœur ferme, attachés au Seigneur Jésus. Parce que c'était un homme de bien. Il était rempli d'Esprit Saint et de foi. Mais ce qui est encore merveilleux, c'est que Barnabas, ce n'était pas son nom originel, mais c'est un surnom qu'on lui avait donné qui signifie « fils d'exhortation ». Mais son nom originel, c'était Joseph. Joseph surnommé par les apôtres Barnabas. Or Joseph, dans son sens étymologique, vous vous rappelez lorsque nous avons vu l'éducation divine à partir de ce jeune homme nommé Joseph, Joseph, c'est un prénom qui a un double aspect. Le premier aspect va aller à la déclaration que fait Rachel lorsqu'elle met l'enfant au monde. Quand Rachel a mis Joseph au monde, elle a fait une déclaration, elle a dit « Dieu enlève mon opprobre ». Pourquoi? Elle était stérile. Dieu a enlevé l'opprobre de la stérilité. Première déclaration, Dieu enlève mon opprobre. Mais il a fait aussitôt une deuxième déclaration, que l'Éternel m'ajoute un fils qui va venir en la personne de Benjamin. Et derrière l'éducation de Joseph, il y a l'idée, dans le sens étymologique, que Dieu enlève et que Dieu, eh bien, Toute l'éducation de Joseph sera au travers de ce principe. Savez-vous que c'était le même principe qui s'appliquait à notre Seigneur Jésus-Christ? Si le grain de blé qui est tombé en terre, dit Jésus, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Prophétiquement, Isaïe dit de lui, Isaïe 53, sa vie a été retranchée de la terre, Dieu enlève. Mais il verra une postérité, Dieu ajoute. Savez-vous que c'est le même principe que Dieu va appliquer à chacune de nos vies comme ses enfants? Dieu ne peut pas ajouter la sainteté sur ce qui n'est pas bon. Il enlève ce qui est mauvais et il rajoute la sainteté. Première source, l'obtention du pardon de mes péchés. Et toutes les conséquences qui en découlent. Apocalypse 14, verset 13. J'entends l'apôtre Jean dire et rapporter ce qu'il a entendu du ciel. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, l'Esprit Saint, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Quand Jésus est né, quelle déclaration a été faite? Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Heureux! Encore! Proverbe 14, 32. Mais c'est ce qu'on a lu au départ, non? Non. Proverbe 14, 32. Regardez avec moi. Proverbe 14, 32. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le méchant est renversé dans sa méchanceté. Mais le juste trouve un refuge, même en sa mort. Cela veut dire que même dans la mort du juste, il y a pour lui le refuge. Le refuge n'est pas autre chose aux yeux de Dieu que le lieu secret de la sécurité. Et à partir du moment que Dieu t'a donné le pardon de tes péchés, il y a toute une série de choses qui va accompagner ou découler de ce pardon que tu as reçu, et entre autres, même quand le temps de ton départ de la vie terrestre arrive, oh, ceux qui restent, certes, ils vont sortir les mouchoirs, mais toi, tu seras heureux parce que tu es rentré dans la gloire du Père. Amen. Écoutez, quand Lazare a terminé avec les souffrances de la terre, non seulement Abraham a dit au mauvais riche, là, il est consolé. Et cette consolation n'est pas une consolation pour 10 ans, c'est une consolation éternelle que Dieu lui a accordé, et dans le ciel, c'est la félicité, la joie, lorsqu'il essuiera toute l'âme de nos yeux. Amen. Alors, la deuxième source de cette joie dont le Seigneur nous parle ce soir, cela se trouve dans l'évangile de Matthieu. Tiens, regardez Jésus avec moi dans l'évangile de Matthieu, et retrouvons-le dans une circonstance particulière, où notre Seigneur va faire une déclaration liée à une circonstance particulière. Matthieu, le chapitre 16, verset 17. Mais pour plus de clarté, prenez avec moi le verset 13. Matthieu 16, 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je? Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. »
Dites-vous amen à cela?
Oui.
Jésus, reprenant la parole, lui dit...
Alléluia.
Jésus lui dit, en prenant la parole, lisez, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. La deuxième source qui va te procurer de la joie dans le cœur, c'est celle que nous définirions comme étant la révélation de Jésus, fils de Dieu. Oh, ça a l'air de rien. Et savez-vous qu'il y a dans le monde, il y a des millions de gens qui ne croient pas que Jésus est le fils de Dieu. Et là, après avoir posé la question, qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? Ils ont donné des réponses. Et Jésus a scindé la pensée, et vous? Qui dites-vous que je suis? Alors, nous voyons d'abord que c'est mentionné, verset 16, lisez, verset 16, Simon-Pierre. Simon-Pierre répondit. Donc c'est Simon-Pierre qui répond. Vous êtes d'accord? Mais quand Simon-Pierre répond, tu es le Christ, le Fils de Dieu, regardez ce que Jésus lui dit. Regardez ce que Jésus lui dit. Verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux? Tu es heureux? Ah, Simon, fils de Jonas. Derrière Simon-Pierre, il y a celui qui est appelé à devenir un roc. Celui qui, lorsque Jésus l'a rencontré, Jésus lui dira, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Céphas signifie roc. C'est-à-dire, Dieu va te rendre solide. Plus tard, Jésus lui dira, tu es Pierre, et sous ces pierres, je bâtirai mon église. Ça veut dire que plus tard, tu es appelé à être quelqu'un de solide dans la foi et un instrument dans la main de Dieu qu'il va utiliser pour accomplir son dessein et glorifier au travers de toi son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand il donne la réponse, Jésus mentionne, tu es Simon, fils de Jonas. On est toujours fils de quelqu'un. Et derrière l'expression fils de Jonas, il est mis en évidence ce que nous sommes dans la chair. Notre origine. Notre fragilité. Nos incompétences. Nos inconséquences. Nos limites. Nos faiblesses. Mais nos péchés. Dieu nous a révélé que Jésus-Christ est son Fils. N'est-ce pas là une source de joie? Je ne sais pas pour vous, hein, mais je suis heureux ce soir. Parce que Dieu m'a révélé que Jésus-Christ est son Fils. Oh, ça a l'air de rien. Parce qu'une fois que nous sommes entrés dans le plan de Dieu, avant je connaissais Jésus, j'avais entendu parler de lui. Je l'avais entendu parler de la manière religieuse. Mais je ne l'avais jamais rencontré comme celui qui avait payé le prix du rachat de mon âme. Ça, je l'ai reçu quand Dieu m'a révélé son salut en Jésus, et Jésus, l'auteur de ce salut. Ça va toujours? Écoutez, est-ce que vous êtes là ce soir avec moi? Parce que si vous n'êtes pas là, moi je m'en vais, hein. Mon frère Philippe me dit, reste. Comme si j'allais partir. Je ne peux pas partir comme ça. Ah non. Non. Je suis tellement bien avec Jésus. Je suis tellement bien avec vous. On n'est pas bien ensemble, là? Oui, on est bien. Alors, si on est si bien ensemble, voyons la troisième source. Aïe, aïe, aïe. Non. Il y a encore tellement de choses à vous donner. Alors, écoutez. Vous savez ce que vous allez faire? Notez. Ésaïe 61, verset 10. Notez, c'est dans la même tranche de pensée, la deuxième source. Notez aussi ce que Jésus dit dans Jean 16, verset 22. Notez, Jean 16, 22. Et lisons maintenant, Romains 15, verset 10. Romains 15, verset 10.
Pour voir la dernière lecture concernant la deuxième pensée.
Alors j'ai dit, aidez-moi, Romains 15, verset 10.
Alors Romains 15, 10. Ça y est, j'y suis.
Nation, réjouissez-vous avec son peuple. Alléluia. Louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Ésaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Alors, comme conclusion, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de quoi?
Ah, de toute joie.
Vous remplisse de toute joie, de toute paix, dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Troisième source, nous allons la considérer en allant dans l'évangile de Luc. Et nous allons trouver au chapitre 10, cette source ouverte dont Jésus parle et que le Saint-Esprit déverse dans le cœur de l'enfant de Dieu que nous sommes, que je suis ce soir. Luc 10, verset 17. Et si je résume, Jésus a envoyé 70 disciples en mission avec le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Et puis revenant de mission, ils vont dire à Jésus, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Confirmation de Jésus, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, pour leur montrer que par la mission qui leur avait été confiée, et dans la mission que Dieu leur a assignée, la puissance du malin dans les lieux atmosphériques a été ébranlée. Eux ne l'ont pas vu, mais Jésus leur confirme ce qu'il a vu. Dans le monde invisible, il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est pas rien. Et voici ce que Jésus va ajouter pour leur montrer ce qui, aux yeux de Dieu, est une priorité comme elle l'est pour nous ce soir, comme enfants de Dieu. Luc 10, 17. Les 70 revinrent avec joie. Sont revenus de mission avec joie. Disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un. Et vous remarquerez que Jésus n'a pas dit, je voyais les mauvais esprits tomber du ciel. Non. La puissance déployée a été jusqu'au chef. Il faut comprendre ce que Jésus dit. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Montrer la dimension de la puissance que Dieu a déployée au travers de ses envoyés. Alléluia. Frères et sœurs en Christ. Alléluia. Oh, frères et sœurs. Non, parce que pendant que je vais à l'Écriture, hop, l'Esprit s'est me donné une pensée. Dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, l'apôtre dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que non pas cette puissance, mais cette grande puissance, soit attribué non pas à nous, mais à Dieu. Ça veut dire que Dieu veut te faire comprendre ce soir qu'en toi, il n'y a pas une puissance, mais une grande puissance. Encore faut-il que tu la fasses valoir. Allez, regardons ce que Jésus dit et continuons. Voici, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents » et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et Jésus conclut, et
rien ne pourra vous nuire. Moi, j'appuie sur le rien et rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra te nuire. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est qui? C'est Jésus. Alors, si Jésus dit toujours la vérité, il dit, mais la chose arrive. Hein? Cependant, voici ce qui doit être la priorité et qui devrait logiquement vous remplir de joie. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Ce n'est pas quelque chose d'anormal. C'est normal par rapport à votre rang. C'est normal parce que Dieu vous a confié une mission. C'est normal parce que le Saint-Esprit habite en vous. C'est normal parce que vous êtes dans le plan de Dieu. Et c'est normal car c'est la volonté de Dieu. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que... Troisième source de joie pour moi ce soir. Alléluia. Troisième source de joie pour moi ce soir. Mon nom n'est pas inscrit sur le registre religieux de monsieur le curé. Au presbytère, je ne suis pas répertorié. Mais dans le ciel. Dans le ciel, mon nom est dans le livre de vie de l'agneau. Peut-être que sur le plan humain, tu as quelque temps dans la santé, peut-être que tu as une jambe tordue, un nez crochu, peut-être que tu manques quelques dents, certes, ça c'est humain. Mais n'empêche, on a beau te dire ou dire de toi toute chose, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça qui va empêcher que ton nom reste inscrit dans le livre de vie. Alors, vous comprenez pourquoi, comme le psalmiste le dit, je me et je en paix. Pourquoi? Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Et malgré tout l'artifice que Satan va déployer, malgré toutes ses œuvres pour essayer de t'arrêter, malgré tout l'amada qu'il va utiliser pour t'amener sur le terrain de la séduction, etc., 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 Dieu œuvre pour continuer son travail d'affermissement, afin que dans ce qu'il te dit ce soir, tu y entres, tu adhères, tu demeures, et que tu sois de plus en plus affermi dans la vérité présente. Ressent Christ, ça, c'est pas de la théologie, ça. Ce sont des réalités spirituelles que le Seigneur met à notre portée ce soir, comme ses enfants, pour nous donner à saisir ce qu'il veut qu'en tant qu'enfant de Dieu, je comprenne. Ça n'empêche en rien que j'ai des épreuves. J'ai des épreuves. Vous en avez des épreuves. Tous on a des épreuves. Mais Dieu me dit, Claude, les épreuves que tu connais, certes, certaines d'entre elles, tu t'y es mise toi-même, d'autres, l'ennemi de ton âme qui s'acharne, les crée, d'autres, c'est moi qui les permets. Parce que depuis que tu es devenu mon enfant, il n'y a aucun détail de ta vie qui m'échappe. À un moment donné dans la vie des apôtres, dans les actes des apôtres, on a commencé à manifester de l'hostilité à leur encontre. Et lorsqu'ils ont été amenés devant le Sanhédrin avec défense expresse de ne pas prononcer ni prêcher au nom de Jésus, lorsqu'on les a relâchés, ils ont commencé à prêcher de plus belle. Pourquoi? Les apôtres se réjouirent d'avoir été trouvé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus de Nazareth. Que feriez-vous à leur place? Quand on vient de vous donner 40 coups moins 1, 39 coups de verge, et que vous avez subi toutes sortes d'outrages qui ne sont pas nommés dans l'Écriture, mais dans leur temps, ce n'était pas du tout glorieux. C'était des atrocités qu'ils subissaient parce qu'ils étaient attachés à Jésus-Christ, qu'ils prêchaient l'Évangile. Aujourd'hui, béni soit Dieu, nous prêchons l'Évangile librement. Comme le frère disait hier soir, nous prions pour les autorités pour que nous puissions mener une vie paisible. Gloire à Dieu, nous menons cette vie paisible. Mais du temps de la Bible, les premiers disciples de Jésus, les apôtres, une fois qu'ils ont commencé à prêcher, ils ont subi toutes sortes d'outrages, mais ils se sont réjouis d'avoir été trouvés dignes. Et quand même vous souffriez, comme dit les Saintes Écritures, eh bien vous serez heureux. Pourquoi? Parce que l'Esprit de grâce repose sur vous. Je vous donne la dernière source. J'en ai noté 4, je vous ai donné 3. J'en ai noté 5, je vous ai donné 3. Je vous donne les deux autres rapidement. Eh bien, la quatrième, on la trouve en regardant l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, où nous voyons Jésus dans Jean 13, il premièrement va laver les pieds de ses disciples, ses apôtres. Et à partir du verset 14, même verset 12, nous voyons Jésus parler ainsi. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds, dites avec moi, les uns des autres, les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » Verset 17 qui nous intéresse. « Si donc, dites avec moi, vous savez ces choses, vous avez la connaissance, vous êtes heureux. Mais vous êtes heureux, lisez la suite. Pourvu que vous les pratiquiez. Et quand le Seigneur nous parle du bonheur qui va découler de la pratique, vous savez ce qu'il fait? Il est en train de nous donner ce qui ressemblerait fortement à une leçon de piété. Cette source, nous pourrions la nommer le bonheur par la pratique de la piété. Alors, pasteur gentil, la piété, c'est quoi? Mais la piété, c'est, comme j'ai essayé de scinder, m'approcher d'une définition la plus plausible. Alors, j'ai compris que la piété serait à définir ainsi l'amour pour les choses d'en haut. L'affection pour les valeurs divines qui, par le Saint-Esprit, va produire en moi de la dévotion pour la pratique. Ça vous convient? Vous savez, quand Dieu nous parle, ou quand Dieu permet que nous recevions sa parole, il y a l'enseignement qui est destiné à nous donner à acquérir plus de connaissances. Mais aussitôt avec l'enseignement, il y a ce qu'on appelle l'instruction qui est destinée à nous faire rentrer dans la pratique de ce qui nous a été enseigné. N'est-ce pas? Et combien d'années Dieu nous a enseigné? Depuis que nous avons cru pour le salut, combien de fois Dieu nous a enseigné? Que d'enseignements Dieu nous a dispensés? Et si nous devrions faire un rapport entre la dimension de l'enseignement, l'instruction que nous avons reçue et la pratique qui en a découlé, je suis persuadé qu'il y aurait une grande marge et avec la marge, j'oserais même dire un fossé. C'est ce que Jésus veut que nous comprenions là ce soir. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et je le suis. Vous dites bien, je le suis. Cependant, si moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, je vous ai laissé un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Mais la clé, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Jésus peut te dire ce soir, si tu veux être heureux, pratique mes commandements. Et quelquefois, frères et sœurs en Christ, il découle de notre raisonnement humain. Pasteur vous dit ça, mais moi je fais ce que je veux. Alors tu comprendras bien que, à cette allure-là, l'Esprit Saint ne peut pas développer le fruit qui s'appelle la joie dans ton cœur. Parce que la joie vient quand tu pratiques. La joie vient quand tu pratiques dans Acte 20, sachant qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à. Mais oui! C'est un peu comme la censure. La censure, il n'a qu'un seul mot. Donne. Mais l'enfant de Dieu dans la piété, il sait qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et quand l'occasion lui est donnée, c'est là le dernier point, la dernière source, tu la trouves quand tu lis le psaume 112, versets 1 à 5. Et après, je te laisse tranquille. Vous méditez ce que Dieu t'a dit ce soir. Béni soit le Seigneur, amen. Alors, le psaume 112, versets 1 à 5. Alléluia, que le nom de Jésus soit béni. Le psaume s'ouvre ainsi, par cette déclaration, dites avec moi, louez l'Éternel. Non, pas louer, pas heureux. Il faut d'abord louer l'Éternel. Mais quand tu es heureux, tu fais quoi? Tu loues l'Éternel. Alors, louez l'Éternel. Point d'exclamation. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, donc la crainte de Dieu, et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. La pratique qui découle de la piété, sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Et voici la source qui s'ouvre maintenant. Lisez. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Alléluia. Voilà une source ouverte de joie et de bonheur. Je vous ai dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais quand Dieu met dans ton cœur de pratiquer la miséricorde, Jésus, dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, en a fait mention. Dans Matthieu 5, 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et dans l'évangile de Luc, il en parle aussi. Dans Luc 6, versets 35 à 38, qu'en pratiquant la miséricorde, c'est ainsi que vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Gloire à Dieu. Regardez, frères et sœurs en Christ, dans Matthieu 5, verset 44. Matthieu 5, 44. C'est là que se trouve ce que je viens de vous dire. Heureux ceux qui pratiquent la miséricorde. Et la miséricorde, ce n'est pas de dire, va, chauffe-toi, mange, rhabille-toi quand tu sais qu'il n'y a rien. Non, ce n'est pas ça l'amour en action. Quand l'amour est en action, le Seigneur parle à ton cœur parce qu'il te montre une situation où le frère un tel la sœur est-elle a besoin que tu lui fasses, eh bien, un don dans ce que tu as, puisque peut-être que tu es dans l'abondance, peut-être que tes greniers regorgent de mou, l'abondance est dans ta maison, parce qu'il y a disette dans la maison du méchant, mais il y a grande abondance dans la maison du juste. Or, quelquefois, Dieu permet que je sois dans l'abondance pour qu'un frère ou une sœur puisse être au bénéfice de l'abondance que Dieu m'a donnée. Je pratique à son égard la miséricorde. Vous savez, la miséricorde, frères et sœurs en Christ, pour conclure, la miséricorde, c'est quoi? Il faut que j'en connaisse le fonctionnement de la miséricorde. La miséricorde a un fonctionnement défini, différent que la compassion. Peuvent être très proches, mais la miséricorde, selon le plan divin, va consister dans le fait pour Dieu de s'arrêter sur mon besoin. Et quand je pratique la miséricorde, quand Dieu en a pratiqué à mon égard, eh bien, la miséricorde que je pratique va m'amener à regarder sur le besoin de mon frère, le besoin de ma sœur, qui est différent de la compassion. La compassion, quand Dieu l'exerce, c'est pour lui le fait de s'arrêter sur ma souffrance. Compassion, souffrance, miséricorde, besoin. Vous avez vu la différence? Mais dans les deux cas, celui qui en fait l'expérience et qui reçoit, il bénit Dieu. Parce qu'il a utilisé un instrument pour que je reçoive le secours, non pas du bien-aimé, de la bien-aimée, mais de la part de Dieu au travers! Celui qu'il a bien voulu utiliser. Et quand vous faites cela, frères et sœurs en Christ, celui qui est dans le besoin est secouru. Quand il est secouru, il bénit Dieu. Et en retour, lorsqu'il bénit Dieu, Dieu fait descendre sa bénédiction sur ta vie. Voilà ce que le Seigneur a permis que le pasteur Gentil reçoive de sa part et dispense à son peuple ce soir. Prions le Seigneur.